Bonjour à toutes, mesdames, bonjour à tous, ceux qui nous suivent également. On est parti pour notre étude hebdomadaire. Et on y va, sans plus attendre. Sans plus attendre, je vois qu'il y a déjà 5 personnes avec moi, ça fait plaisir. Mesdames, on est reparti pour notre étude donc sur slash Tefila ve Agada, comme on a fait la semaine dernière. Donc, bah allons-y, je vous propose de commencer directement, sans plus attendre. On est arrivé à la beracha de Al Tzadikim. On a terminé Birkat Aminim. On avait expliqué toute la particularité de cette bénédiction. Et maintenant, nous arrivons donc à la beracha suivante, Birkat Tzadikim. Et la première question qu'on peut se poser, avant même de rentrer dans le corpus, dans le texte de la beracha, c'est de se demander pourquoi a-t-on besoin d'une beracha pour les Tzadikim. Alors, on peut se dire, pourquoi pas, a priori, de donner une bracha pour les tzadikim, la briout. Mais il semblerait que si on donne une bracha pour les tzadikim, ça veut dire que les tzadikim sont en danger. On a besoin d'afka, eux, de leur faire une bracha. Et l'autre question, c'est de savoir pourquoi maintenant. C'est-à-dire, si on regarde l'ordre de la tefila, qui est un ordre obligatoire, comme on a dit, car c'est l'ordre de du dévoilement de Dieu, de la Géoula. Donc, on a expliqué qu'on ne peut pas changer l'ordre et qu'on doit aller suivant celui de la Tefila. Eh bien, la question qu'on doit se poser, c'est la suivante. On est en plein milieu du processus de la Géoula. Et si on est en plein milieu du processus de la Géoula, pourquoi maintenant mettre la bracha pour les tzadikim? On a passé Birkat Hashanim, c'est-à-dire la résurrection de la nature. On a passé la bracha où on nous parlait de la Géoula, Tekab Shofar Gadol Rerutenu. On a passé. On est en plein déjà dans le processus de la Géoula. Et la question qui reste donc à poser, c'est pourquoi, eh bien, maintenant, on utilise ce temps-là qui nous est imparti pour donner la bracha sur les tzadikim. Alors, pour répondre à cette question-là, qui est une question centrale, à mon avis, eh bien, il faut qu'on comprenne que les tzadikim peuvent être en danger. Quand peuvent-ils être en danger? Alors, ce n'est pas tout le temps. Les tzadikim sont en danger à un moment bien précis. Exemple. Et je pense que ce que nous vivons actuellement est totalement en accord avec ce que l'on va dire aujourd'hui. Concrètement, prenez un rabbin il y a 350 ans. Et prenez un rabbin il y a 300 ans, on va dire qu'entre le rabbin d'il y a 350 ans et le rabbin d'il y a 300 ans, les questions qui lui ont été posées étaient les mêmes, concrètement. Pourquoi les mêmes? Pour une raison très simple. La vie n'a pas changé entre celui d'il y a 350 ans et celui d'il y a 300 ans. Même pas celui d'il y a 250 ans non plus. C'est-à-dire qu'en exil, durant toute la période de l'exil, la vie, elle suit son cours. Par contre, lorsque nous sommes dans un changement historique, là, le rabbin, le tzaddik, est en danger. Quel est ce danger? Eh bien, ce danger, c'est de ne pas savoir dans quelle époque il vit. Nous dit la Torah, dans la paracha de Shoftim, que lorsque nous avons une question, okay, tu as une question sur un sujet X ou Y, nous dit la Torah, ve'alarta El la shofet ve la kohen asheriye bayami mahem. Ve shalta ela ve devar chok umishpat. Tu dois aller voir le shofet ou le kohen qui est en ce temps-là. Rashi, comme si le texte n'était pas clair, nous dit oui, tu dois aller voir le shofet qui est en ce temps-là, car tu n'as de shofet que celui qui est beyamecha. Et Rashi continue en disant, et d'ailleurs, même si les shoftim d'avant étaient meilleurs que les shoftim de maintenant, tu ne dois aller voir qu'un shofet qui est là. Et la grande question qu'on peut poser à Rashi au verset, c'est de dire, bah, évidemment, quoi? Est-ce qu'il y a un risque que j'aille voir un shofet qui n'est pas né? Non, évidemment. Est-ce qu'il y a un risque que j'aille voir un shofet qui est déjà mort et que je lui pose des questions? Bien évidemment que non. Ça n'est pas possible. quand on a une question de halakha, une question de compréhension du monde, d'aller voir un rabbin qui est mort? Bien sûr que non, on n'a pas le droit. Donc, qu'est-ce que la Torah nous apprend en nous disant « il faut aller voir un chauffette qui est en ton temps ». Et que nous apprend Rashi en nous disant « ne cherche pas les juges d'avant ou d'après, le juge qui est là, c'est celui que tu as ». Bien tout simplement, il y a des juges qui vivent actuellement, dans chaque génération. Mais il y en a qui comprennent le temps dans lequel ils sont et d'autres ne le comprennent pas. Et toute la question est de savoir, est-ce que tu sais dans quelle époque tu vis pour que ta compréhension de la Torah soit en adéquation? Vous savez qu'il y a un concept dans le judaïsme qui s'appelle tzadik veralo face à tzadik vetovlo. C'est quoi la différence? Alors vous avez l'explication du Admor HaZaken dans le Tanya, qui nous parle de tzadik qui a ton etzerara mais qui le bat, et un tzadik qui n'a plus du tout d'etzerara. Ça c'est l'explication du Tanya. Mais quelle est l'explication du Likutei Moharan de Rabbi Nachman Breslav? C'est celui qui fait plus de 50% de mitzvot, pas de problème. Maintenant, pour le Rabbi Nachman Breslav, dans Likutei Moharan, tzadik vetovlo, c'est un tzadik, ve'alacha kemoto. C'est-à-dire que son avis, c'est également celui qui est retenu dans la halacha. Donc tovlo, il kiffe. Alors que le tzadik ve'ralo, c'est un tzadik, mais alacha lo kemoto. C'est-à-dire son avis n'est pas celui de la halacha. Donc ralo. Cachez-le. En d'autres termes, il y a des rabbanim qui comprennent leur temps, leur époque, et d'autres non. Prenez l'exemple de ces deux rabbins qui ont fait la chose opposée, mais qui sont enterrés, pas à côté physiquement, mais dont la Gemara nous dit qu'ils vont être assis ensemble au Gan Eden pour l'éternité. Il s'agit d'un côté de Chizkiyahu Melech Yehuda, et de l'autre côté de Rabban Yochanan ben Zakkai. Dans les deux personnages ont eu la même situation. Un ennemi qui faisait le siège de Jérusalem. Pour Chizkiyahu, c'était Sanhérib, et pour Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était les Romains. L'un s'est battu bec et ongles contre Sanhérib et n'a pas laissé l'ennemi rentrer dans la ville, alors que l'autre, Rabban Yochanan ben Zakkai, a donné les clés de la ville aux Romains. Comment est-ce possible? Et donc, ils ont fait deux actions complètement inverses, mais ils sont assis ensemble au Gan Eden. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il fallait savoir dans quelle époque on était. À l'époque de Chizkiyahou, c'était une époque de Géoula, une époque de construction. Il fallait donc se battre pour Jérusalem jusqu'au bout. À l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était le départ en exil. Il fallait comprendre qu'il fallait sauver les meubles. En d'autres termes, la question est là. Lorsqu'un tzaddik vit dans le même contexte que les tzadikim qui l'ont précédé, il n'y a pas de grand risque pour lui. Parce qu'il suffit qu'il prenne exactement les mêmes psychotes, les mêmes décisions que les rabbins d'avant. Mais un tzadik qui vit dans une génération où la génération d'avant a complètement rien à voir, révolution générationnelle, eh bien ce tzadik-là doit comprendre dans quelle époque il vit. En d'autres termes, nous avons deux moments où il y a un danger d'être un tzadik. Lorsqu'on part de Géoula en exil et lorsqu'on sort d'exil en Géoula. Il y a une troisième possibilité, mais on y viendra dans deux secondes. Donc, soit quand on part en exil, soit quand on sort de l'exil. Eh oui. Rabbi Yochanan Zakkai comprend à son époque qu'on part en exil et que si on se bat contre les Romains, c'est la fin du peuple juif. Et donc, il sauve les meubles. Aujourd'hui, la question est posée. Aujourd'hui, il y a 100 ans. Est-ce que les rabbins ont compris qu'il s'agissait d'une époque Géouli. Et c'est pour ça que lorsque vous citez le verset dans le parasha de Shoftim, eh bien le verset continue en nous disant « Tzedek tzedek tirdof, leman tirye veyarashta et haaretz ». Il faut que tu poursuives deux fois la justice pour que tu vives et que tu hérites de la terre. Rashi toujours nous dit « Il faut faire très attention quand on met en place les rabbins, car il faut des bons rabbins ». Mazé des bons rabbins, des beaux rabbins. On dit Allah Haché Beddin Yafé. Mazé Beddin Yafé, un beau Beddin, c'est un Beddin qui arrive à faire vivre de pair le Achayot et Israël ou le Oshiva Malad Matam. C'est-à-dire qu'il fait vivre de pair le fait de faire survivre le peuple juif et de le faire venir sur sa terre. En d'autres termes, un rabbin qui dirait qu'il vaut mieux rester en exil pour la survie du peuple juif, eh bien, c'est un rabbin qui a tort dans sa compréhension du temps. Il ne sait pas dans quelle époque il vit. Peut-être que c'était une phrase qu'il pouvait dire à l'époque des croisades, mais plus aujourd'hui. Et donc, la première difficulté, c'est donc de savoir dans quelle époque tu le vis. Il y a des rabbins aujourd'hui qui vivent encore il y a 300 ans, que ce soit dans leur façon de parler en yiddish, leur façon de s'habiller comme en Pologne, leur façon de réfléchir la halakha comme étant des individus les uns à côté des autres, qui ne réfléchissent pas en hébreu, qui ne réfléchissent pas en Eretz Israël, qui ne réfléchissent pas de manière collective. Dans la Géoula elle-même, eh bien, vu que la Géoula est quelque chose de dynamique, eh bien, particulièrement dans le processus de Géoula, les tzadikim sont mis à mal. Parce que cette année ne ressemble pas aux 10 dernières années, alors qu'on est dans le même processus de Géoula, parce que la Géoula avance. Et donc, il y a des vraies problématiques qui se mettent en place. Évidemment que la révolution technologique fait partie du dévoilement de la Géoula, et que donc, nous avons maintenant des questions. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser Zoom, l'application Zoom, ou alors YouTube Live, l'homme chanet, pour faire le soir du CEDER et connecter des familles qui sont en isolement, en quarantaine? C'est la question du moment. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces applications vidéo pour compléter un minyan? C'est la question du moment, parce qu'on ne peut pas aller dans les synagogues. Est-ce que la mitzvah d'aller prier en minyan est plus importante que la mitzvah de faire attention à sa santé? C'est une autre question qui est la question du moment. Et donc, les rabbanim, lorsqu'ils vont répondre, vont devoir comprendre dans quelle époque ils vivent. Je ne vais pas commencer à m'étendre sur la halakha. Il est évident que Pikuach Nefesh est plus important que la tefila en minyan, et que donc, tant que le Misrad Abriyut nous dit qu'on a la possibilité de prier seulement à 10 dans un espace ouvert avec plus de 2 mètres d'écart entre les gens, alors, ok, faisons-le. Mais dès que le Misrad Abriyut nous dira qu'il faut arrêter, si, j'espère que ça n'arrivera pas, qu'il faut arrêter d'être à 10 personnes, eh bien, on ne priera pas en minyan. Est-ce que des personnes par vidéo interposée peuvent constituer un minyan? Eh bien, non. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose. C'est très sympa, Inès. Ce matin, j'ai fait la tfila du Gan de ma fille, avec tous les enfants du Gan. Zéchamoud, c'est très sympathique. Mes enfants, enfin, ma fille au Gan ne constitue pas un minyan. Mais ce n'est pas un minyan, c'est pas comme ça qu'on est une assemblée. La vidéo est très bien, mais ce n'est pas une assemblée. Et je ne le redirai jamais assez, même si là, nous avons la possibilité de se retrouver à 12, comme je peux le voir là maintenant, c'est très bien. Baruch HaShem qu'on a cette technologie extraordinaire, ça ne remplacera jamais l'interaction humaine. Et je veux que ce soit bien clair. La technologie n'est pas là pour supplanter l'être humain, mais elle est là pour l'aider. Donc, ce sont des questions auxquelles il faut s'intéresser. La question que j'ai laissé en suspens, qui est la plus intéressante, à savoir est-ce qu'on peut utiliser ces supports vidéo pour connecter des familles durant l'Eil HaSeder, eh bien, je laisse pour l'instant les rabbanim Gdolim trancher et on suivra leurs avis, évidemment. Vous avez tous certainement entendu parler de cette lettre ouverte des rabbins nord-africains qui le permettent. Il faut voir, dans les jours à venir, nous aurons une réponse, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est la preuve que nous vivons un moment où les rabbanim doivent se repencher sur la Torah et sur la halakha pour lui donner une grandeur de Géoula. Et donc, c'est pour ça que dans le processus Géouli, eh bien, nous avons cette bracha pour les tzadikim. Et vous allez voir que dans la bracha, eh bien, nous avons plusieurs personnages différents qui sont évoqués. On commence en disant « Ala tzadikim ». Ah, tzadikim, c'est pas chout. Tzadik, c'est celui qui fait le bien et qui ne fait pas le mal. Zah tzadik. C'est un rav. Le rav, il fait la halakha. Mais il y a quelqu'un d'autre qu'on met dans la tfila. Ve'al achasidim. Oh, c'est qui le chassid? Alors, le chassid, on ne parle pas des chassidim du Baal Shem Tov. Vous voyez bien que la tfila qui a été écrite il y a 2300 ans, 2400 ans, ne peut pas faire référence au chassidim du Baal Shem Tov. Donc, c'est la notion de chassidout à l'origine. À savoir, la notion de chassidout, c'est faire en plus que ce que la halakha m'a demandé de faire. Et là, si pour les rabbins, on a expliqué pourquoi il fallait une bracha, pour les chassidim, il faut une wahad bracha, comme on dit. Une grosse, grosse, grosse bracha. Quel est le danger qui guette le chassid? Il y en a un. le danger qui guette le chassid, c'est de vouloir donc en faire plus, mais que ce en plus soit au détriment de quelque chose de la halakha. Ou mieux que ça, que son en plus soit au détriment du fondement même du judaïsme. Je vais vous donner un exemple. On a quelqu'un qui va travailler, qui a son travail, machin, et qui a une demi-heure par jour pour se poser, étudier, prier. C'est tout ce qu'il a, une demi-heure par jour, le reste du temps, il travaille. Alors, il ramène à manger à la maison, il ramène une parnassa, il est sympathique, il est un petit peu frustré de ne pas pouvoir étudier plus la Torah, mais bon, Zemayesh. Et puis, un jour, il entend un chiour dans lequel on dit « c'est très très important d'étudier la Torah ». Et il se dit « bon ben alors voilà, j'ai décidé, je quitte mon travail et maintenant je vais à la yeshiva toute la journée ». Ah, la fête, on t'a dit d'étudier la Torah tous les jours, c'est une mitzvah. Lui, il avait sa demi-heure de Torah tous les jours. Mais maintenant, il dit « non, ça ne suffit pas une demi-heure. Allez, 7 heures de Torah par jour, 8 heures de Torah par jour ». Donc, il ne travaille plus. Et sa famille est en train de tomber sous le seuil de pauvreté. Et ses enfants n'ont plus rien à manger. Et il y a une tension permanente à la maison parce que bah, quand il n'y a rien à manger dans le frigo, et bah, les gens ne vont pas bien. Mais lui, il a ses 8 heures de Torah. Il fait des divrei Torah le soir à la maison. Nounou, c'est ce qu'on appelle « chassid choté ». C'est un chassid idiot qui se trompe complètement parce qu'il a mis en avant quelque chose, mais c'est au détriment des autres. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui devient un extrémiste de la tzniout et qui devient le polier de la tzniout et qui maintenant va faire la guerre à toutes les personnes qui voient l'autre tznouim. D'abord, comment ça se fait qu'il les voit? C'est sa première question. Et la deuxième question, la seule chose qu'il va réussir à faire, c'est d'éloigner les gens de lui et de ses idées. Là aussi, chassid, choté. Ou alors, quelqu'un qui aurait pris sur lui, je ne sais pas moi, de manger que du lait chamour, disant du lait surveillé, du lait Israël. Et donc, et maintenant, il vient et il se balade d'endroit en endroit et dit que tout ce qui n'est pas lait chamour, parce que ce qui n'est pas lait surveillé, eh bien, ce n'est pas kasher. C'est faux. Donc, tu as pris quelque chose sur toi à la brioute. Mais si ça vient au détriment de Avat Israël, de la compréhension générale de la Torah, Bichlal, de la Parnassa, machin, Aslo. Donc, les chassidim, il faut bien comprendre que ce qu'ils font, ils le font pour une bonne raison. C'est bien de se rapprocher encore plus de Dieu. Mais le danger, c'est que ce rapprochement t'emmène à avoir une incompréhension dans la volonté générale du Créateur. Donc, la tzadikim, on a compris pourquoi il fallait une bracha particulière. Mais la chassidim, on a compris également. Seulement, la bracha continue en nous disant « Val zikne she'erit amecha bet Israël ». Ouah ! C'est qui ces gens-là ?« Zikne she'erit amecha bet Israël ». C'est qui ça ?« Zikne she'erit » Les anciens du reste de ton peuple, bet Israël. Misé. Eh bien, les amis, « She'erit zikne amecha bet Israël » Mise, c'est Amekoubalim. Amekoubalim, et je l'aime Baaya. Les Mekoubalim, ils ont un grand problème. Ils sont les Zikne, Amechabet Israël. Zikne, Aam, Zekana, Chochma, Zaken. Ça ne fait référence à ce terme, Zekana, Chochma. Or, la Chochma par excellence, c'est Chochma Takabala, Torah Takabala. Et Zikne, Sherit, Amechabet Israël, leur grand problème, c'est qu'ils sont tellement en accord avec leur idéal, avec ce qu'il faut être, eh bien, c'est que le problème, c'est qu'ils sont des fois détachés de la réalité. Ils ne sont pas dans le passé, comme on a dit quel peut être le problème des rabbins. Eux, ils sont trop dans l'avenir. C'était le cas, par exemple, de Rabbi Meir. Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir, nous dit le Talmud, En Bedoro que Rabbi Meir. Il est le plus grand de sa génération, sans aucun problème. Et pourtant, la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Meir. Pourquoi ? Dit le Talmud, parce que lo yardou chaverav le sof da'ato. Parce que les rabbanim, les autres, n'arrivaient pas à comprendre la profondeur de ce qu'il disait. Il était trop en avance sur son temps. Et donc, bien, les gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Insupportable. Je voudrais ici rappeler, bien évidemment, la mémoire du Derzo qui nous a quittés, dessinateur d'Astérix, qui, dans une des planches, si je ne me trompe pas, c'était le devin, Astérix le devin. Eh bien, dans une planche, il dessine dans la tête d'un devin qu'est-ce qu'il voit comme étant le futur de l'habitation. Et il voit la cité radieuse de Marseille, les premières cités, les habitations HLM qui ont vu le jour dans les années 60, et, au moment de la sortie de l'album. Et donc, il fait mettre cette image-là dans la tête d'un druide gaulois d'il y a 2000 ans. Des fois, il y a des gens qui sont trop dans l'avenir. Et même si c'est sûr que c'est ce qui va se passer, eh ben, on y a du mal. Je disais hier à mes parents que cette notion de vidéo interposée, machin, maintenant la technologie marche très bien, on peut se voir en live, c'est très bien, mais particulièrement dans notre situation actuelle. Mais quel est le danger ? Le danger, c'est que demain, Baruch HaShem, le corona va passer et on va revenir à une vie normale, seulement on se sera tellement habitué à cette technologie que ce sera notre nouvelle vie normale et je m'inscris en faux. C'est-à-dire, je vois que Baruch HaShem, les gens, c'est très, très bénéfique de pouvoir se connecter et étudier la Torah depuis la maison, machin, mais il ne faudrait pas qu'après le corona, les gens se disent, on va continuer à étudier la Torah de la maison. Chas v'shalom. Et je me rappelle une vidéo qui avait tourné, alors il y a une bonne dizaine d'années, on n'avait pas de corona, rien du tout, on voyait déjà les méfaits du MP3, où les cours commençaient à être enregistrés et étaient donc mis sur MP3 et machin. Et tu voyais donc un rabbin rentrer dans une yeshiva, dans sa classe où il devait enseigner son cours de Gemara, et il n'y avait personne. Mais par contre, à chaque place autour de la grande table, il y avait un téléphone qui avait été mis en mode enregistreur. Genre, les élèves étaient partis ailleurs, mais ils avaient enregistré le cours, ils étaient prêts à enregistrer le cours. Et donc le rabbin, voyant cela, eh bien, il a sorti son téléphone et il a appuyé sur lecture parce qu'il avait pré-enregistré son cours et donc il est parti faire d'autres choses. Et il y avait donc les élèves qui étaient en train, par leur téléphone, d'enregistrer le cours qui était lui-même donné par un cours enregistré. Bataille, tu comprends bien que ce n'est pas ça. Et je trouve que c'était une vidéo maintenant que j'y repense, prophétique, bien évidemment. Et donc, des fois, les gens vivent trop dans l'avenir et sur le moment, on n'arrive pas à les comprendre. C'est ceux qui nous ont dit depuis 2000 ans que nous allons vivre ce que nous allons vivre aujourd'hui. Je ne parle pas du corona, je parle de la Géoula de manière générale. Et donc, eux, leur problème, c'est qu'à force de vivre détaché parce que dans l'avenir, eh bien, ils puissent être complètement rejetés. Donc, eux aussi, on doit les rattacher. Ve'al peletat bet sofrehem. Ah, maze ve'al peletat bet sofrehem. Mazé à Peleta. Oh, les amis, Peleta, il faut bien comprendre une chose, que nous sommes Sheherit à Mechabet Israël, mais seulement Sheherit. Sheherit à Peleta. Pourquoi ? Eh bien, parce que depuis l'an -721, c'est-à-dire il y a près de 2700 ans, nous avons perdu l'identité d'Israël, puisque Sanhérib est venu à exiler les 10 tribus du Nord. Et nous sommes devenus de facto, après cela, des Yehoudim, c'est-à-dire dirigés principalement par la tribu de Yehuda, Binyamin, Lévi un petit peu, des Kohanim, et pour Vécham, une identité. Mais on a perdu l'identité d'Israël, on est devenus des Juifs. Et ça fait de nous Sheherit de Amcha Israël, mais où est la Peleta ? La Peleta, il faut prier pour elle également. Valpeletat bet sofrehem. Toutes ces identités, Zvulun, Gad, Asher, Issachar, Dan, Naphtali, bien sûr, ils font partie de l'identité d'Israël. Alors, comme on les a perdus depuis 2000 ans, 2700 ans, j'ai dit, il y en a qu'on commence à retrouver, par Baruch HaShem. Par exemple, eh bien, le judaïsme d'Éthiopie se revendique de la tribu de Dan, la Malo. On a retrouvé les Béné Ménaché, semble-t-il. Bezrat Hashem, on retrouvera toutes les tribus d'Israël. Mais en attendant, le peuple juif qui reste, eh bien, a décidé de s'auto-réinventer à l'intérieur même de l'identité juive une identité globale d'Israël. Vous savez, dans le Tanakh, quand on parle de l'identité de Yehuda face à Israël, on parle donc du schisme après le royaume de Salomon, de Shlomo, eh bien, il y a eu le schisme qui a créé deux États, l'État de Yehuda au sud et l'État d'Israël au nord, les deux tribus et demie, Yehuda, Binyamin et un peu Lévi, au sud, et les 10 tribus qui restent au nord. Ah bah oui. Et donc, ces 10 tribus qui restent au nord, dans le Tanakh, sont appelées de manière assez générale, soit Israël, soit Ephraïm. Ephraïm étant le moteur de ces 10 tribus. Nous dit le Rav Kook que Am Israël a reproduit au sein même de Yehuda, Yehuda et Ephraïm, qui sont devenus au fur et à mesure du temps Dati'im vechilonim. Rav Kook explique que les Dati'im qui sont proches du Kodesh Aragil, de la religiosité, sont les descendants de Yehuda, alors que Ephraïm, qui sont Ohavim et Teva, qui aiment le naturel du peuple juif, on va dire ça, la nation, eh bien, sont devenus plus les Chilonim. En d'autres termes, eh bien, nous avons recréé à l'intérieur même de l'identité d'Israël une identité de Datim, Vechilonim, Yehuda, Vephraim. C'est Val Peletat Bet Sofrehem. Val Gerat Tzedek. Vadaï. Misa Ger Tzedek. Gerat Tzedek. On en connaît tous des gens qui se sont convertis. Mais cette notion de guerre, c'est une notion qu'il faut absolument développer. Alors vous savez, le Ger Tzedek, ça veut dire converti. Mais qu'est-ce qui nous apprend? Qu'est-ce qui nous amène comme prise de conscience judaïque? Dans ce monde, on est guerre ou on est toshav? C'est une question. Alachiquement parlant et judaïquement parlant, hébraïquement parlant, guerre, ça veut dire temporaire, étranger. Toshav, ça veut dire résident permanent. C'est l'inverse de l'hébreu moderne. Dans l'hébreu moderne, on dit anigar po, ça veut dire je suis domicile fixe. Mais dans l'hébreu du Tanakh, guerre, c'est étranger. Toshav, c'est permanent. Quand quelqu'un se convertit, on dit quoi? On dit guerre chez Midgayer. C'est bizarre. Un étranger qui s'étrangise. On aurait dû dire guerre chez Mityaed ou chez Mityachev. Ou alors, si on veut dire que il était toshav par rapport à son existence de non-juif, on aurait dû dire toshav chez Midgayer. Mais oui, parce que face à notre rapport au monde, il y a deux écoles. Il y a l'école juive et l'école non-juive. Chez les non-juifs, on se sent toshav à olam azé. D'ailleurs, on appelle les goyim umot à olam, em baolam. Alors que le juif se voit comme étant guerre baolam azé. Mais ça, c'est le résultat de l'exil. Avraham Avinu voulait nous apprendre autre chose. Guerre vetoshav anochi imachem. Il dit le Sefer HaZohar que Dieu répond au peuple juif. Im ger atem baolam azé, toshav atem imadi. Si vous êtes étranger par rapport à ce monde, vous êtes résident permanent chez moi. Et si vous êtes résident permanent dans ce monde, vous êtes des guérim chez moi. En d'autres termes, le converti, ou guerre, maintenant, il a pris sa dimension juive de guerre, de guéroute par rapport à Olam Hazé. Aval, il l'était déjà avant, c'est juste qu'il ne le savait pas. Donc il est guerre chez Mit Gayer, qui prend conscience de sa guéritude. Donc Zé Guéret à Tzedek qui nous apprennent ça. Valgeret Tzedek, va aller nous. Nous aussi on a besoin de tefila. Vadaï. Yemuna rachamecha. Rachamecha, c'est la notion de temps dont nous avons déjà évoqué souvent. Hashem Eloheinu veten sachar tov le chol abotrim beshimcha beemet. Parce qu'il y a des gens qui sont botrim beshimcha val lo beemet. Et ça, dans les moments de difficulté, eh bien on les voit. On les voit ceux qui sont botrim b'Hashem, que dès qu'il y a un problème, la bitachon, elle n'est plus là. Donc, v'chol abotrim b'shimcha, b'emet, v'sim chelkenu imahem, avec ceux qui sont botrim b'shimcha, b'emet. On veut être faisant partie de cette identité-là. V'sim chelkenu imahem, ou le'olam lo nevosh ki becha batachnu. Et ça, ça, les amis, je pense que nous en sommes complètement dedans. Que nous n'ayons jamais honte d'avoir eu à avoir foi en toi. Vezemamashkacha. Zemamash kacha, je vais vous dire. Alors, il y a des vidéos qui ont tourné là sur Facebook, YouTube, que le pape, alors il paraît que c'était une vidéo de 2018, pas de maintenant, mais que le pape même aurait dit qu'il faut faire Shabbat, un truc comme ça. Bah, tous les gens qui ont donné leur vie pour Shabbat, et aujourd'hui, eh bien, le monde entier dit qu'il faut faire Shabbat. Nous, tu as eu raison d'être boté Arba Hashem. Ou alors, toutes ces personnes qui viennent avec les halakhot d'hygiène, corona, d'hygiène, tout se laver les mains, machin, c'est daim shalaya adout. Eh bien, aujourd'hui, on va te dire, mais il était temps. Enfin, aujourd'hui, ça fait déjà 100 ans qu'on te dit qu'il faut se laver les mains. Ça a l'air. Valbotri Beshimcha Behemet. Un jour, c'était, si je ne me trompe pas, c'était soit Pessah, soit Soukhot, je ne sais pas. J'étais en France chez mes parents et on a été avec mon père à Disneyland Paris. Ouais, grosse entreprise parce qu'on n'habite pas à Paris, mais enfin bon. Et non, je crois que c'était Pessah. Et on est à Disneyland Paris, machin. Maintenant, quand on arrive, on est parti tôt. On est parti très, 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 très tôt pour essayer de... Parce qu'il y avait quand même 3 heures de route. Donc, on est parti tôt. On est parti genre vers 6 heures du matin ou un truc comme ça, un machou casé. Ou même peut-être avant. Parce qu'on ne voulait pas rater du tout. On voulait prendre toute la journée, machin. Donc, on est parti. Il faisait nuit. Et quand il faisait nuit, moi, je suis rentré dans la voiture. Je me suis endormi. Et donc, en arrivant sur le parking de Disney, la première chose que j'ai fait, j'ai sorti... mon sidour, mon talit, j'ai fait ma tefila. Qu'est-ce qu'il y a enfin, ma tefila avant de partir au parc. Je ne le faisais pas avant dans la voiture parce que j'ai dormi et puis de toute façon, dans la voiture, c'est un peu compliqué. Donc, il était 8-9 heures du matin, j'ai fait ma tefila. Nounou. Et mon père, ah, mais range-moi tout ça, mais enfin, mais les gens, ils ne sont pas obligés de te voir. Machin. Ça va, je suis sur le parking, je demande pas à personne de rien, je n'embête personne, je fais ma tefila vite fait. Tu vois pas que plus tard dans la journée, dans le parc, quelqu'un est venu me voir en me disant « Est-ce que vous pourriez me prêter un truc cachère, machin, parce que mon fils, il a faim et on a pu… » Comment il savait que j'étais juif? Alors, tu peux dire, c'est marqué sur mon nez. Tu peux le dire. Ouais, mais j'avais une casquette et ce truc. Donc, a priori, et je passais pas pour un juif. Hein, c'était pas la casquette que tu vois à 300 mètres que c'est un juif. Une casquette comme ça, Nike, bien un truc, un pantalon large, machin. Mais il m'avait vu faire la tuya le matin, quand lui, il est arrivé au parking. Mais Kitsour, à Sour, là, nous, on n'a pas le droit d'avoir honte de Liftor Bahashem. Oleolam lo nevosh ki becha batachnu. Alors, tout le monde ne dit pas cette phrase-là, mais dans mon sidour, on le dit. C'est sur la bonté d'Akadosh Baruch Hu qu'on se repose. Baruch Ata Hashem, Mish'an. Mish'an, c'est une canne. Tu es une canne, Dieu, sur laquelle on peut se reposer. Ou Miftach. Et tu es une canne, mais sur la tzadikine. Mish'an ou Miftach, la tzadikine. Yafemod! On a terminé la partie Tfila. On peut maintenant passer dans la partie Agada. Alors, on a dit qu'on donnait des petits vortim comme ça, des petites explications pour la Agada de Pessah. Alors, on a avancé. Je ne sais plus où est-ce qu'on est arrivé. Je ne sais pas. En réalité, je ne sais pas. Bémet. Mais ce n'est pas très grave parce qu'on va donner, on va continuer. Même s'il y a des trucs qu'on n'a pas dit, ce n'est pas très, très, très grave. On va arriver maintenant à Tse Ulmad. Tse Ulmad ma bikesh lavan arami. Alors, j'ai changé, je ne suis plus dans la tfila. On est maintenant dans la Agada de Pessah. Alors, vous savez quoi, on va commencer par Vei chez Amda. Ouais, avant Tse Ulmad, alors ceux qui ont une Agada, vous pouvez la prendre. Ceux qui n'ont pas de Agada, eh bien, rappelez-vous de ce que vous faites chaque année. Vei chez Amda la votenu velanu. Alors, comme on connaît la chanson, évidemment. שלא אחד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Alors, והיא שעמדה, la grande question, c'est, מה זה והיא? Et celle-là qui nous a protégés, avec nos ancêtres et nous, c'est quoi והיא? והיא, c'est ברית בין הבתרים. L'alliance entre les morceaux que Dieu il a contracté avec Abraham. Et cette alliance, elle dit quoi? Eh bien, elle dit qu'il y aura Am Israël et la terre d'Israël. En d'autres termes, kol a tous les problèmes qu'on a eu pendant l'exil, shelo echad bilvad amad aleinu lechalotenu, ne pouvait pas réussir à annuler ces deux promesses. Que un, Am Israël survit, et que deux, il reviendra sur cette terre d'Israël. Comprenez bien que lorsqu'on s'assoit au Seder, cette année, et donc cette année, eh bien, plus personne ne sort faire Seder en Crète, au Portugal, comme moi je devais aller, machin. Tout le monde, j'ai envie de te dire, Baruch Hashem, tout le monde est obligé de rester en Eretz Israël. Bon, ceux qui ne sont pas encore, malheureusement, ils ne sont pas encore, mais tous ceux qui sont en Israël vont faire Pessah en Israël. Oh, oh. Et alors, eh bien, à ce moment-là, on pourra fièrement dire que nous sommes la génération de la réalisation de ces promesses. Mesdames, je m'adresse à un public qui, je le sais, a vécu peut-être la majorité de ses Pessahs de sa vie en Chutz La'aretz, mais a également maintenant eu le mérite de faire partie de cette Vehi She'amda La'avotenu Ve'lanu Ve'akadosh Baruch Hu Matzilenu Mi'adam. Matzilenu, pas seulement au niveau de la destruction du peuple juif, mais au niveau de l'annihilation de notre identité nationale, puisque nous sommes là en tant que juifs et nous sommes présents ici en Eretz Israël. Seulement, une fois qu'on a dit cela, eh bien, on ne peut pas faire abstraction de ceux qui ne rentrent pas dans le critère de ce que je viens de dire. Il y a des gens qui ne sont... Alors, il n'y a personne qui est en Israël, mais qui n'est pas juif. Enfin, il y a des non-juifs en Israël, évidemment, mais ces non-juifs en Israël, ils ne font pas Pessah, ce n'est pas le débat. Je veux dire, il n'y a personne qui est juif en Israël et qui n'est pas juif. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, il y a des juifs qui sont juifs, mais qui ne sont pas encore en Israël. Donc, il y a des juifs qui ont une partie de ce Veïché Hamda, qui sont restés dans leur identité juive, mais qui ne sont pas encore ici, Bezrat Hashem, l'année prochaine. Mais il y a des juifs qui ne sont ni là, ni là. Et c'est à cela que vient faire référence le paragraphe qui suit, qui nous dit « C'est Ulmad Mabikesh Lavana Arami ». C'est Ulmad. Et ça, ça veut dire en français « Sors et vois ce que Lavan a voulu faire ». Dans ce paragraphe, on nous dit que Lavan est bien pire que Pharaon. On dit « Non, Pharaon, c'est un petit joueur, Pharaon. »« Pharaon, c'est un petit joueur !»« Pharaon, c'est... non, je ne vais même pas pouvoir te dire c'est Hitler, parce que ça n'a rien à voir, en fait, parce que Hitler, il veut tuer tout le monde. Alors que Pharaon, il ne veut pas tuer tout le monde. Pharaon, il veut tuer les mâles, garder les femelles, c'est-à-dire qu'il veut tuer les enfants juifs, garçons, et garder les filles, mais surtout, il veut rendre le peuple juif en esclavage. Donc Pharaon, il ne veut pas nous détruire, il n'est pas Hitler, c'est pas Haman. Il veut qu'on soit là et qu'on soit soumis à sa bonne volonté. Lavan, ce n'est pas Haman non plus. Ah non, pas du tout. Lavan, c'est beaucoup plus... Alors, je vais faire attention en comparaison parce que ce n'est pas exactement ça, mais il ressemble beaucoup plus à un mélange. Et je sais que je prends ici deux opposés, d'accord ? Donc vous allez comprendre de quoi je veux parler. Lavan, c'est une fusion entre, je sais pas moi, on va dire, entre Roosevelt et Staline. C'est-à-dire, c'est une fusion entre l'idéal communiste et capitaliste au niveau du judaïsme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lavan, c'est d'un côté le « mais attends, mais tout va bien chez moi ». Lavan, il a accueilli Yaakov, il lui a donné à manger, il l'a mis PDG de son entreprise. Non, Yaakov, il vit pépère, il lui a même donné ses filles. Ah, Yaakov, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que Lavan, il permet à une chefa, une abondance économique. D'un autre côté, Lavan, il dit quand même, bon, petit à petit, tu vois, pas méchamment, mais, enfin voilà, ici, on est araméen, tu vois, on est araméen, ou alors on est membre du parti. C'est-à-dire que le judaïsme, on ne veut pas l'exprimer en public. Tu comprends, il y a la laïcité, machin. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est quoi, Lavan, il n'a pas dit au début à Yaakov, t'arrêtes complètement d'être juif. Pas du tout. Juste dans l'espace public. Tu comprends, il faut respecter les gens qui habitent à Haran, ça se fait pas, ils viennent de culture chrétienne, tu peux pas... comme ça, de balader dehors avec ta kippa, tzitzit, et tout ça, machin. Et là, Yaakov, il comprend ça très bien. Donc, il dit, sois juif dans ta maison et un Allemand dehors, comme disait Moshe Mandelson. Et puis, petit à petit, on enlève aussi des trucs à la maison. Et ben, on commence à parler d'ailleurs aux enfants en araméen, en français. On oublie l'hébreu, on oublie les traditions, petit à petit. Lavan, il est politiquement correct. Lavan, il veut tout déraciner. Ça veut dire quoi? Il veut tout déraciner. Qu'est-ce que ça veut dire? Rotaï, il veut nous enlever notre identité d'Israël. Il veut faire en sorte qu'on soit des bons araméens. Lavan, il n'est pas araméen. Lavan, à la base, il est hébreu. Le père de Lavan, c'est Bethuel. Le grand-père de Lavan, c'est Nahor. Et donc, le grand-oncle de Lavan, c'est Abraham Avinu. Sauf que Lavan, il n'est plus hébreu. Il s'appelle Lavan Arami. Il a adopté complètement la culture araméenne. Mazetse Ulmad, c'est tous ces gens qui ne sont pas autour de la table du Seder. Et je sais à quel point on en connaît tous. Dans toutes les familles, on a cela. Et si ce n'est pas dans toutes les familles, eh bien c'est dans tous les amis, on a cela. Des gens qui ne sont pas au table du Seder, mais pas parce qu'il y a le corona et qu'ils sont en bidoude. Parce qu'ils sont déjà mariés avec une Goya. Parce que, ça y est, c'est Ulmad. D'habitude, quand on parle du Talmud, on parle de l'étude, on dit Tashma. Tashma, ça veut dire Botishma. Viens et étudie. Viens dans le Beit HaMidrash et viens étudier. Là, tu veux savoir ce que Lavan a fait ? Sors. Sors de ta maison où tout le monde est à l'intérieur de la table du Seder et tout ça. On est tous des religieux. Même les pas religieux qui sont au Seder, c'est des religieux. Aval, sors. Sors et va voir ce qu'a réussi à faire Lavan. 48% d'assimilation en France et des chiffres encore plus étonnants, enfin étonnants, terribles, aux États-Unis. Une assimilation grandissante qui est un fléau encore pire que l'esclavage de Pharaon. On a dit, on ne fait pas aucune comparaison avec Hitler, parce que Hitler, c'est autre chose encore. Mais Hitler nous a pris 6 millions. Depuis la Shoah, par cette assimilation, c'est plus de 6 millions qui sont partis ou tout simplement n'ont pas pu rentrer dans le peuple juif. C'est Ulmad Mabikesh Lavan Arami. Le pire ennemi du judaïsme, c'est la perte de son identité. Pas la perte de sa liberté. Parce que même si tu m'oppresses et même si tu m'emmènes en esclavage, mon cœur et mon âme sont toujours liés à Kadosh Baruch Hu. Même si tu me prives de, je sais pas moi, de la possibilité de me retrouver avec mes amis juifs, je resterai fidèle à mon identité. Aval, lorsqu'on te dit que tu es le bienvenu et qu'il y a juste des petits changements, des petites modalités à faire, Eléat, eh bien, regardez comment ça fait. Tse Ulmad Mabikesh Lavan Arami. Ce qui veut dire que notre rôle à nous aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est de sortir également pour ramener celui qui est dehors. Sortir au devant de celui qui est complètement assimilé et lui dire « Ata Sheli, tu fais partie de mon identité, tu fais partie de mon équipe, rentre à la maison. » Amen, que cette année, dans cette période de bidoud, j'espère que le confinement s'arrêtera pour Pessah, qu'on pourra passer Pessah avec nos familles, avec nos amis, et que Bezrat Hashem, eh bien, on se donne comme objectif de ramener toutes ces personnes qu'on connaît et qui se sont éloignées au sein même du peuple juif pour que Veish et Amdala Avotenu Velanu soit véritablement un cri d'espoir pour tout notre peuple et pour toute l'humanité. Amen. Kenei Ratzon ve Shabbat Shalom.